Chapitre 2. La fille à sa fenêtre. 1. Maintenant, la chasseresse avait le ventre plein, comme disaient les anciens. Même à midi, on pouvait la distinguer dans le ciel, blême vampiresse surprise par le lumineux soleil d'automne. Devant des établissements tels que le repos des voyageurs, et sur les vérandas des maisons de maître et de ranch aussi importants que le Rocking Bay de Lang Hill ou le Lazy Susan de Renfrew, des pantins à tête de paille revêtus de vieilles salopettes commencèrent à faire leur apparition. Chacun était coiffé d'un sombrero et tenait un panier de denrées au creux de son bras. Chacun regardait le monde qui se vidait de ses yeux blancs brodés au point de croix. Des chariots remplis de courges obstruaient les routes. Des monceaux, orange brillant, de potirons et magenta brillant, d'âpres raves, s'entassaient le long des granges. Dans les champs roulaient de pleines chartées de pommes de terre, suivies de près par les ramasseurs. Devant le magasin général d'Ambry, les amulettes de la moisson apparurent, comme par magie, pendouillant des gardiens sculptés, tels des carillons éoliens. Partout dans Mégis, les filles cousaient leurs costumes de la nuit de la moisson et parfois pleuraient sur leur ouvrage quand ils n'avançaient pas, tout en rêvant aux garçons avec lesquels elles danseraient au pavillon du cœur vert. Leur petit frère avait du mal à s'endormir à force de penser au manège, au jeu et au lot qu'ils pourraient gagner pendant ce carnaval. Même leurs aînés, en dépit de leur dos douloureux et de leurs mains abîmées, restaient parfois éveillés tard dans la nuit à songer au plaisir de la moisson. L'été s'était éclipsé sur un dernier envol de sa robe de verdure. L'heure de la moisson avait sonné. 2. Réa, qui se souciait comme d'une guigne des balles de la moisson ou des jeux du carnaval, ne dormait pas mieux que ceux qui en rêvaient. La plupart des nuits, elle gisait sur son grabat puant, éveillée jusqu'à l'aube, son crâne lui cognant de rage. Un soir, peu après l'entretien de Jonas et du chancelier Rimmer, elle décida de boire pour tout oublier. Son humeur ne s'améliora guère quand elle découvrit que son tonneau de graffe était presque vide. Elle infesta l'air de ses imprécations. Elle reprenait son souffle pour en dévider un nouveau chapelet quand une idée lui vint. Une idée lumineuse, une brillante idée. Elle avait voulu que Suzanne Delgado sacrifie sa chevelure. Ça n'avait pas marché et elle ignorait pourquoi. Mais elle savait quelque chose sur cette fille, non? Quelque chose d'intéressant? Si fait, de très intéressant. Réa n'avait aucune envie d'aller trouver Thorin avec ce qu'elle savait. Elle caressait l'espoir, chimérique probablement, que le maire avait tout oublié de sa boule de cristal merveilleuse. Mais à supposer que la tante de cette fille, que Cordelia Delgado, découvre non seulement que sa nièce avait perdu sa virginité, mais encore que cette dernière était bien partie pour devenir une traînée expérimentée. Réa ne croyait point que Cordelia s'en irait avertir le maire. Cette femme était une prude, pas une imbécile. Cependant, ça reviendrait à lâcher le chat dans le pigeonnier, tout pareil, non?
Miaou!
Quand on parle du chat. Moisy se tenait sur le porche au clair de lune et la regardait avec un mélange d'espoir et de méfiance. Réa lui ouvrit les bras avec un hideux sourire.
Viens, mon trésor! Viens, mon zounet!
Moisy, comprenant que tout lui était pardonné, se précipita dans les bras de sa maîtresse, où il se mit à ronronner haut et fort, tandis que Réa lui léchait les flancs de sa vieille langue jaunâtre. Cette nuit-là, tout dormit profondément sur le kios pour la première fois de la semaine. Et quand Réa prit le cristal dans ses bras le lendemain matin, ses brumes se dissipèrent immédiatement sous ses yeux. Elle y resta rivée toute la journée, à épier des personnes détestées, sans boire ni manger. Au coucher du soleil, elle sortit de son état de transe, suffisamment du moins pour prendre conscience qu'elle n'avait encore rien fait concernant cette petite péronnelle si dévergondée. Mais c'était très bien comme ça. Elle voyait déjà comment s'y prendre et pourrait assister aux résultats dans le cristal. À toutes les protestations, à tous les cris et grincements de dents, elle y verrait les pleurs de Suzanne. Voir ses pleurs, ce serait le meilleur de tout.
« Ma petite moisson personnelle, » dit-elle à Hermotte, qui remontait en rampant le long de sa jambe pour aller se lever là où elle l'aimait le mieux.
Peu d'hommes pouvaient vous faire reluire comme Hermotte.
Ah, ça non.
Assise, le serpent sur les genoux, Rhea se mit à rire. 3.
Souviens-toi de ta promesse, dit Alain avec une certaine nervosité, entendant les sabots de Flash. Ne t'emporte pas.
De crainte, fit Cuthbert, qui doutait d'y parvenir.
Roland contourna l'aile du baraquement, puis entra à cheval dans la cour, son ombre projetée par le soleil couchant à la traîne, et Cuthbert serra les poings convulsivement. Il se força à les rouvrir. Puis, regardant Roland descendre de sa monture, il les serra à nouveau, les ongles enfoncés dans ses paumes.
« Encore une engueulade !» songea Cuthbert. « Mais Dieu, que j'en ai marre, plus que marre !»
La veille au soir, il avait été question des pigeons voyageurs, une fois de plus. Cuthbert voulait en envoyer un dans l'ouest, nanti d'un message au sujet des citernes de pétrole. Roland ne voulait toujours pas en entendre parler. Alors il s'était disputé. Sauf que, encore une chose qui l'exaspérait, qui lui portait sur les nerfs, comme le son de la tramée, Roland ne s'était pas, à proprement parler, disputé avec lui. Roland, ces jours, ne daignait pas se disputer. Son regard demeurait obstinément lointain, comme si son corps seul était présent. Le reste, cœur, esprit, âme, cas, était près de Suzanne Delgado.
« Non, s'était-il contenté de répondre. C'est trop tard pour ça. »«
Tu n'en sais rien, » lui avait opposé Cuthbert. « Et même si c'est trop tard pour recevoir de l'aide de Gilead, ça ne l'est pas pour en recevoir des conseils. Es-tu devenu aveugle, au point de ne pas le voir ?»«
Quel conseil peut-on nous donner ?»
fit Roland, qui parut ne pas remarquer l'âpreté du ton de Cuthbert. Le sien, raisonnable, était empreint de calme. Et complètement déconnecté de l'urgence de la situation, songea Cuthbert.
« Si nous le savions, Roland !» avait-il rétorqué. « Nous n'aurions pas à en demander, non ?»«
Il n'y a qu'une chose à faire. Attendre et les arrêter quand ils passeront à l'action. C'est du réconfort que tu cherches, Cuthbert. Pas des conseils. »
« Tu veux dire, attendre pendant que tu la baisses de toutes les façons et dans tous les endroits imaginables, » avait songé Cuthbert. « Dehors, dedans, en large et en travers. »«
Tu n'as pas une vue très claire de ces choses, »
avait froidement conclu Cuthbert. Il avait entendu Alain hoqueter de surprise. Aucun des deux n'avait jamais de la vie fait une sortie pareille à Roland. Gêné et inquiet, il avait attendu l'explosion qui ne tarderait pas. Et qui ne vint pas. « Si, » répondit Roland, qui était entré là-dessus dans le baraquement, sans ajouter un seul mot. Et maintenant, observant Roland défaire Flash de ses sangles et lui ôter sa selle, Cuthbert se disait
« Non, tu sais, mais il vaudrait mieux que tu aies une vue claire de ces choses. Par tous les dieux, tu ferais mieux. »«
Allez, » dit-il à Roland, qui, portant la selle jusqu'au porche, la déposa sur les marches.
« Ton après-midi a été bien rempli ?» ajouta-t-il, ignorant le coup de pied dans les tibias que lui décocha Alain.
« J'étais avec Suzanne, » dit Roland.
Rien pour sa défense, ni hésitation, ni objection, aucune excuse invoquée. Et un bref instant, Cuthbert eut devant les yeux une image d'une netteté choquante. Il les vit tous les deux quelque part dans une cabane, leurs corps nus tachetés par le soleil de fin d'après-midi qui filtrait par les trous de la toiture. Elle était à califourchon sur lui. Cuthbert vit ses genoux posés sur le vieux plancher spongieux et la tension de ses longues cuisses. Il vit combien ses bras étaient hâlés et combien son ventre était blanc. Il vit les mains de Roland enserrer les globes de ses seins et les presser, tandis qu'elle se livrait à son va-et-vient sur lui. Il vit le soleil incendier sa chevelure finement tressée. « Pourquoi faut-il que tu sois toujours le premier en tout ? » cria-t-il à Roland intérieurement. « Pourquoi faut-il que ce soit toujours toi ? Les dieux te maudissent, Roland, les dieux te maudissent !»«
On est allé sur les quais, » dit Cuthbert, sur un ton qui n'était qu'une pâle imitation de son enjouement coutumier. « Et on a compté des paires de bottes, des outils de marine, et aussi ce qu'on appelle des tire-clams. On s'est bien amusé ? Pas vrai, Hal ?»
« Mon aide vous a manqué pour ce boulot ?» demanda Roland. Il retourna vers Flash et ôta sa couverture de sel.
« C'est pour ça que tu es si remonté contre moi ?»«
Si je suis si remonté, c'est parce que les pêcheurs d'Ambry se moquent de nous dans notre dos. On n'arrête pas d'aller là-bas. Ils nous prennent pour des crétins, Roland. » Ce dernier opina.
« Tout ça sert nos affaires. »
« Peut-être, » dit tranquillement Alain. « Mais Rimmer, lui, n'est pas dupe. Il n'y a qu'à le voir nous regarder quand on le croise. Jonas, idem. Et s'ils ne nous prennent pas pour des crétins, Roland, qu'ont-ils derrière la tête ?» Roland se tenait sur la seconde marche. Il avait oublié la couverture de sel pliée sur son bras. Pour une fois, il semblait avoir réussi à capter son attention, se dit Cuthbert. « Alléluia !» Que les miracles ne cessent jamais.
Il croit qu'on évite l'aplomb parce qu'on sait déjà ce qui s'y trouve, fit Roland. Et s'ils ne le croient pas encore, ils ne vont pas tarder à s'y mettre.
Cuthbert a un plan.
Le regard de Roland, moyennement intéressé, déjà prêt à s'absenter, s'orienta vers Cuthbert. Cuthbert le plaisantin. Cuthbert l'apprenti. Qui n'avait en rien gagné l'arme qu'il avait apportée de l'Est jusqu'au croissant extérieur. Cuthbert le puceau et l'éternel second. Mais Dieu, je ne veux pas le détester, je ne veux pas, mais c'est si facile à présent.
On devrait aller voir tous les deux le shérif Avery demain, dit Cuthbert.
On présentera la chose comme une visite de courtoisie. Nous avons déjà la réputation d'être trois jeunes gens polis, quoique légèrement stupide, n'est-ce pas ?
À l'extrême, tomba d'accord Roland en souriant.
On n'a qu'à dire qu'on en a finalement terminé avec la partie côtière d'Ambry et qu'on espère se montrer aussi scrupuleux dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage, mais qu'on ne tient certes pas à déranger ni à se mettre dans les pattes de quiconque. C'est après tout le moment de l'année où l'activité est la plus grande pour les rancheros comme pour les fermiers, et même des crétins de citadins invétérés tels que nous ne sauraient qu'en être conscients. Alors nous donnerons à ce bon shérif une liste. L'œil de Roland s'alluma. Il lança la couverture sur la balustrade du porche, et saisissant Cuthbert aux épaules, lui donna une accolade bourrue. Cuthbert flaira une odeur de lilas près du col de Roland, et ressentit l'envie folle mais forte de le serrer à la gorge et de tenter de l'étrangler, mais il se contenta de lui taper négligemment dans le dos en retour. Roland se détacha de lui, un large sourire aux lèvres.
« Une liste des ranches qu'on se propose de visiter, » dit-il.
« Si fait. Et une fois prévenus, ils pourront transférer toutes les têtes de bétail qu'ils auront envie de nous cacher dans le ranch suivant, ou le dernier de la liste. Même chose pour les articles de céleri, le fourrage, le matériel.
T'as eu une idée de génie, Cuthbert.
Pas vraiment, fit Cuthbert. J'ai juste consacré un peu de temps de réflexion à un problème qui nous concerne tous autant que nous sommes. Et l'ensemble de l'affiliation aussi, peut-être. C'est nécessaire de réfléchir.
Ce n'est pas de mon avis.
Alain fit la grimace, mais Roland parut ne rien remarquer. Il souriait toujours. Même à 14 ans, une telle expression sur son visage ne laissait pas d'être inquiétante. À vrai dire, quand Roland souriait, il avait l'air légèrement fou.
« Tu sais,
Il se pourrait même qu'ils fassent entrer dans leurs écuries un bon paquet de mutés et nous les mettent sous les yeux, rien que pour qu'on continue à croire aux mensonges qu'ils nous ont racontés sur l'impureté de leur lignée. » Il marqua un temps, parut réfléchir avant d'ajouter « Pourquoi toi et Alain, vous n'iriez pas trouver le shérif, Bert ? Vous vous en tireriez très bien, je crois. » À ce moment-là, Cuthbert faillit se jeter sur Roland et lui crier en pleine figure « Oui, pourquoi pas ? Comme ça, demain, tu pourras la tringler du matin au soir, espèce d'imbécile, espèce de frappé d'amour sans cervelle !» Al lui sauva la mise, la leur sauva à tous, peut-être. « Ne sois pas bête, » dit-il sèchement. Et Roland se tourna vivement vers lui sous le coup de la surprise. Il n'était pas habitué à se faire sonner les cloches de ce côté-là. « Tu es notre chef, Roland. Tu passes pour tel aux yeux de Thorin, Avery et des autres habitants de la ville, sans oublier les nôtres. »« Personne ne m'a nommé. »« Personne n'en a eu besoin !» s'écria Cuthbert. « Tu as gagné tes armes. Ces gens-là auraient du mal à le croire. Moi-même, il y a peu, j'avais encore du mal. Mais tu es un pistolero. Il faut que ce soit toi qui y ailles. Ça crève les yeux. » Peu importe lequel de nous t'accompagnera, mais toi, tu dois y aller. » Il aurait pu en dire plus, beaucoup plus, mais s'il passait outre, qui sait jusqu'où il irait. Jusqu'à ce que leur amitié soit en miettes, probablement. Aussi, la boucla-t-il, pas la peine qu'Alain lui file un coup de pied cette fois, et se prépara-t-il à nouveau à une explosion. Et une fois de plus, l'explosion ne vint pas. « Très bien. » fit Roland de cette façon détachée et lénifiante, genre « tout ça, c'est pas très important », qui était nouvelle chez lui et qui donnait envie à Cuthbert de le mordre jusqu'au sang, histoire de le réveiller. « Va pour demain matin. Tu viendras avec moi, Bert. 8 heures, ça t'ira ?»«
À merveille, » fit Cuthbert.
À présent que la discussion était terminée et la décision prise, Bert s'aperçut que son cœur battait la chamade et que les muscles de ses cuisses étaient en coton. Il avait ressenti la même chose après leur affrontement avec les grands chasseurs du cercueil.
« On va se mettre sur notre 31, » dit Roland, « comme de gentils garçons des baronnies intérieures, pleins de bonnes intentions dans leur cervelle de moineau. »
« Parfait. »
Et il rentra. Son rictus avait cédé la place, quel soulagement, à un gentil sourire. Cuthbert et Alain échangèrent un regard et soufflèrent comme un seul homme. Cuthbert désigna la cour de la tête et descendit les marches. Alain le suivit et les deux garçons se retrouvèrent au centre du rectangle de terre battue avec le baraquement dans le dos. À l'est, la pleine lune montante se dissimulait derrière la cotonnade des nuages. « Elle l'a ensorcelée, » fit Cuthbert. « Qu'elle le veuille ou non, elle va finir par nous faire tuer tous à la fin. Il n'y a qu'à attendre, et on verra bien s'il n'y arrive pas. Tu ne devrais pas parler comme ça, même pour plaisanter. Très bien, en ce cas, elle nous couronnera des joyaux de l'aîné. » Et on vivra dans les siècles des siècles.
Cesse d'être furieux contre lui, Bert. Il le faut.
Cuthbert le regarda, l'air morne. Impossible. 4. Même si les grandes tempêtes d'automne ne devaient commencer qu'un mois plus tard, le lendemain matin, l'aube se leva, grise et bruineuse. Et s'étant mitouflés dans leur poncho, que Roland et Cuthbert se mirent en route vers la ville, laissant le soin à Alain de s'acquitter des menus tâches domestiques. Passé dans sa ceinture, Roland portait le plan de visite des ranches et des fermes, avec en tête de liste les 3 de faible superficie que possédait la baronnie, qu'ils avaient mis au point la veille au soir. La vitesse d'exécution que suggérait le dit plan était ridiculement lente. Elle les cantonnerait sur l'aplomb et dans les vergers presque jusqu'à la fin du terme de l'année, tout en étant conforme à celle qu'ils avaient adoptée sur les quais. Ils chevauchaient en silence vers la ville, chacun d'eux perdu dans ses pensées.
Leur chemin les fit passer devant la maison des Delgado. Roland, levant la tête, aperçut Suzanne à sa fenêtre, lumineuse vision dans la grisaille de ce matin d'automne. Son cœur bondit dans sa poitrine, et bien qu'il ne le sût pas encore, ce serait l'image d'elle qu'il garderait à jamais dans sa mémoire, la ravissante Suzanne, la jeune fille à sa fenêtre. Ainsi croisons-nous les fantômes qui nous hanteront notre vie durant. Tranquillement assis au bord de la route comme de pauvres mendiants, nous les observons que du coin de l'œil, et encore quand nous les apercevons. L'idée qu'ils étaient là à nous attendre nous traverse rarement l'esprit. Ils nous attendent cependant, et à peine sommes-nous passés qu'ils rassemblent leurs baluchons de souvenances et nous emboîtent le pas, grignotant peu à peu leur retard. Roland leva la main pour la saluer. Il avait d'abord songé à la porter à sa bouche et à lui envoyer un baiser, mais cela aurait été de la folie pure. Il leva donc la main avant d'en effleurer ses lèvres et, détachant un doigt de son front, la gratifia à la place d'un petit salut désinvolte. Suzanne, en riant, le paya de la même monnaie. Aucun d'eux n'aperçut Cordelia, sortie dans la bruine pour jeter un coup d'œil à ses derniers carrés de courge et d'âpres raves. La dame demeura où elle était, sa sombrera enfoncée jusqu'aux yeux, à moitié dissimulée par le pantin du chiffon qui montait la garde sur son carré de citrouille. Elle regarda passer Roland et Cuthbert. Elle ne vit quasiment pas ce dernier, tout son intérêt concentré sur son compagnon. Lâchant des yeux le cavalier, elle leva le regard vers Suzanne, qui, assise à la fenêtre, fredonnait aussi allègrement qu'un oiseau dans sa cage dorée. Un soupçon aussi effilé qu'une écharde s'insinua dans le cœur de Cordelia. Le changement d'humeur de Suzanne, qui avait troqué une alternance d'accès de tristesse et d'effrayante crise de colère contre une sorte de résignation hébétée, mais surtout gaie, avait été si soudain. Peut-être cela n'avait-il rien à voir avec de la résignation. « Tu es folle ?» se murmura-t-elle à elle-même, mais sa main resta ferme sur le manche de la machette qu'elle tenait. Elle se laissa tomber à genoux dans le potager boueux et se mit tout à trac à trancher les tiges des âpres raves qu'elle lançait à la volée du côté de la maison avec une très grande dextérité. « Il n'y a rien entre eux, je le saurais. Les enfants de cet âge ne sont pas plus discrets que les ivrognes du repos. » Mais le sourire qu'ils avaient échangé, la façon qu'ils avaient eue de se sourire, parfaitement normal, chuchota-t-elle, tranchant et lançant. Elle coupa quasiment une âpre rave en deux, sans même remarquer qu'elle l'abîmait. Se parler à voix basse était une habitude qu'elle avait contractée récemment. Plus le jour de la moisson approchait, et plus la tension montait dans ses rapports avec la fille de son frère, cause de tous ses soucis. Les gens se sourient, c'est normal. Même chose pour le salut auquel Suzanne avait répondu. En bas, le beau cavalier s'inclinait devant la jolie demoiselle. En haut, la donzelle marquait son ravissement d'être un objet d'attention pour quelqu'un tel que lui. La jeunesse qui appelait la jeunesse. Voilà tout. Et pourtant, le regard de ses yeux à lui et celui de ses yeux à elle. Absurde, bien entendu, mais... Mais tu as vu quelque chose d'autre? Oui, peut-être. À l'instant, il lui avait semblé que le jeune homme allait envoyer un baiser à Suzanne, puis qu'il s'était repris au dernier moment et l'avait salué à la place. Même si tu as perçu une chose pareille, ça ne signifie rien. Les jeunes cavaliers sont des impertinents, surtout quand ils sont loin du regard de leur père. Et ces trois-là ont déjà un passé chargé. Tu le sais très bien. Tout cela était bel et bon, mais ne lui retira point l'écharde qui lui glaçait le cœur. 5. Quand Roland frappa à la porte, ce fut Jonas qui répondit et introduisit les deux garçons dans le bureau du shérif. Il arborait une étoile d'adjoint sur sa chemise, et fixa sur eux un regard dénué d'expression.
Ça mouille. Venez vous mettre à l'abri du serein du matin, les gars.
Il s'effaça devant eux. Sa claudication était plus accentuée que jamais. Le temps humide ne devait pas arranger les choses, supposa Roland. Ce dernier et Cuthbert entrèrent. Il y avait un radiateur à gaz dans le coin, alimenté sans doute par la chandelle de Sidgo. Et la grande pièce, si fraîche le jour de leur première visite, était d'une chaleur portant à la torpeur. Les trois cellules étaient occupées par cinq ivrognes faisant grise mine. Deux fois deux hommes et une femme seule dans la cellule du milieu, assise sur la couchette, les cuisses largement écartées, exposant généreusement à la vue une culotte rouge. Roland craignait que pour peu qu'elle enfonçât encore son doigt dans son nez, elle ne puisse plus lui ressortir. Claire Reynolds, appuyée contre le tableau d'affichage, se curait les dents avec le brin de paille d'un balai. Assis au bureau à cylindre, l'adjoint Dave, fronçant le sourcil à travers son monocle, étudiait, en se caressant le menton, le tableau installé devant lui. Roland ne fut pas le moins du monde surpris de constater que lui et Bert venaient d'interrompre une partie de Castles.
Vise-moi un peu ça, Edward, fit Reynolds. Deux des gars du monde de l'intérieur. Vos mamans vous ont donné la permission de sortir, les mecs?
Mais oui, répondit Cuthbert sur un ton enjoué.
Vous m'avez l'air en pleine forme, sigh Reynolds.
Le temps humide, ça doit faire du bien à votre vérole, je me trompe.
Sans regarder Bert ni cesser de faire l'aimable avec son petit sourire, Roland expédia un coup de coude dans les côtes de son camarade.
Il faut pardonner mon ami, Sai. Son sens de l'humour dépasse régulièrement les limites du bon goût. Il paraît incapable de se retenir. Inutile que nous nous cherchions mutuellement des poux. Nous avions décidé d'un commun accord de passer l'éponge, n'est-ce pas?
Si fait, certainement, tout cela n'est qu'un malentendu, fit Jonas.
Il regagna en boitillant le bureau et le tableau de Castles. Comme il reprenait place devant le jeu, son sourire vira à la grimace.
« Suis pire qu'un vieux chien, » fit-il. « Faudrait qu'on m'abatte, si fait. Bien fait. La terre, c'est froid, mais indolore, c'est pas les gars. »
Il jeta les yeux sur le tableau et fit contourner en partie sa butte à l'un des hommes. Ayant commencé à casteller, il était donc vulnérable. Quoique pas tellement, en l'occurrence, songea Roland. L'adjoint Dave ne semblait pas un adversaire bien redoutable.
« Je vois que vous travaillez à la gloire de la baronnie, à présent, » dit Roland à Jonas, désignant de la tête l'étoile sur sa chemise.
« Et pour la gloire, question chiffre, » fit Jonas, se montrant plutôt sociable. « Un type s'est cassé la jambe, je donne un coup de main, ça s'arrête là. »
« Et Sy Reynolds et Sy de Pape, eux aussi donnent un coup de main ?»«
Ouais, comme qui dirait, »
fit Jonas.
Et votre boulot chez les pêcheurs, ça avance plutôt lentement, est-ce qu'on m'a dit.
On a enfin terminé. C'est pas tant le boulot que nous qui avons pris notre temps. Être expédié ici, en disgrâce, c'est suffisant pour nous. Nous n'avons pas l'intention de repartir avec ce même boulet au pied. Qui va lentement, va sainement, comme on dit.
Si fait,
acquiesça Jonas.
Quel que soit ce on.
Quelque part dans le bâtiment retentit un bruit de chaise d'eau. Tout le confort chez le shérif d'Ambry, se dit Roland. Le bruit d'écoulement fut bientôt suivi de pas lourds dans l'escalier, et quelques instants plus tard, Herr Cavery fit son apparition. D'une main, il bouclait sa ceinture, et de l'autre, épongeait son large front en sueur. Roland ne put qu'admirer la dextérité du bonhomme. S'exclama le shérif.
Ces faillots que j'ai bouffés hier soir, ils ont point fait long feu, je vous dis que ça.
Son regard glissa de Roland à Cuthbert avant de revenir se poser sur Roland.
Alors, ça mouille trop pour compter les filets, hein?
Ça, Eddie Bourne venait juste de nous annoncer que le décompte des filets tirait à sa fin,
fit Jonas. Il peignait sa longue chevelure du bout des doigts. Un peu plus loin, Clay Reynolds avait repris sa posture affalée contre le tableau d'affichage. Son animosité à l'endroit de Roland et de Cuthbert se lisait à livre ouvert.
« Si fait, bien, très bien, très, très bien. Vous allez passer à quoi ensuite, les jeunes? Est-il moyen de vous aider en quoi que ce soit? Car on n'aimerait rien tant que vous donnez un coup de main si vous en avez besoin. Si fait. »
« Eh bien, il se trouve que vous pourriez nous aider, » dit Roland. Portant la main à sa ceinture, il en tira la liste. « Nous devons nous transporter sur l'aplomb, mais nous ne voudrions causer de désagréments à personne. » Avec un large sourire satisfait, l'adjoint Dave fit contourner sa butte en totalité à son châtelain. Aussitôt, Jonas Castella lacéra le flanc gauche de Dave sur toute la longueur. Le sourire de ce dernier s'évanouit, cédant la place à une perplexité sans nom.
« Comment vous êtes débrouillé pour faire ça ?»«
Facile !» dit Jonas en souriant.
Il se recula du bureau pour inclure les autres dans son champ de vision.
« Faut-il vous rappeler, Dave, que moi, je joue pour gagner ? Je peux pas faire autrement, c'est dans ma nature. »
Concentrant son attention sur Roland, son sourire s'accentua.
« Comme le scorpion le dit à la demoiselle à l'agonie, tu savais bien que j'étais venimeux quand tu m'as ramassé. »
6. Quand Suzanne rentra, après avoir nourri les bêtes, elle se rendit directement, comme d'habitude, à la resserre froide pour se servir un jus de fruits. Elle ne vit pas sa tante qui la guettait, tapie au coin de la cheminée. Quand Cordelia éleva la voix, Suzanne sursauta, grandement effrayée. Ce n'était point tant à cause du surgissement inopiné de cette voix que de la froideur de son ton.
« Vous le connaissez ?»
Le pichet de jus de fruits manqua glisser des mains de Suzanne, qui le rattrapa de justesse. Le jus d'orange était trop précieux pour qu'on gaspille, en particulier si avant dans l'année. En se retournant, elle aperçut sa tante près du coffre à bois. Cordelia avait accroché sa sombrera dans le vestibule, mais portait toujours son poncho et ses bottes boueuses. Son cuchillo était posé sur le tas de bois, des vrilles vertes d'arbres raves pendillant encore de son tranchant. Si sa voix était glaciale, le soupçon brûlait dans son regard. Suzanne, tous les sens en alerte, eut un accès de lucidité intense. « Si tu lui réponds non, tu es fichu, » songea-t-elle. « Si tu lui demandes de qui elle parle, tu le seras peut-être aussi. Il faut que tu te dises...
« Je les connais tous les deux, » répliqua-t-elle avec désinvolture. « Je les ai rencontrés à la soirée de bienvenue, comme vous. »
« M'avait fait peur, ma tante. »«
Pourquoi vous êtes-il salué de la sorte ?»«
Comment puis-je le savoir ?»«
Peut-être qu'il en a eu envie, c'est tout. » Sa tante ne fit qu'un bond, dérapa dans ses bottes boueuses, rétablit son équilibre et saisit Suzanne par le bras. Ses yeux lançaient des éclairs.
« Pas d'insolence avec moi !»« Ne le prenez point de haut avec moi, mamselle fraîche et rose, ou bien je vais... »
Suzanne se dégagea si violemment que Cordelia chancelante serait une nouvelle fois tombée si elle ne s'était retenue à la table. Dans son sillage, des traces de boue se détachaient sur la propreté du sol de la cuisine. Accusatrice.
« Ne m'appelle plus jamais comme ça, sinon je te flanque une gifle !»
s'écrièrent Suzanne.
« Et je ne parle pas en l'air !»
Cordelia retroussa les lèvres en un rictus des plus féroces.
« Vous gifleriez la seule parente de votre sang qui vous reste ? Vous seriez mauvaise à ce point ?
Pourquoi pas ? Ne m'avez-vous jamais giflé, ma tante ?»
Le sourire de cette dernière disparut et son échauffement de bile se calma.
« Presque jamais, Suzanne.
5-6 fois à peine depuis que tu as commencé à trotter et à saisir tout ce qui était à ta portée, même une marmite d'eau bouillante sur « c'est de ta langue que tu me cingles la plupart du temps ces jours », la coupa Suzanne. Je l'ai supporté jusqu'ici comme une idiote, mais c'est terminé. Je ne laisserai plus rien passer. Si je suis assez vieille pour aller au lit avec un homme contre de l'argent, je le suis assez pour que vous vous adressiez à moi avec respect. »
Cordelia ouvrait déjà la bouche pour se défendre. L'emportement et les accusations de la jeune fille l'avaient déstabilisée. Quand elle prit conscience de l'habileté avec laquelle Suzanne avait détourné la conversation des garçons, ou plutôt du garçon. « Vous ne l'avez vu qu'à la soirée, Suzanne ? Dearborn, je veux dire ?»«
Comme si tu ne savais pas. »«
Je l'ai aussi rencontré en ville, » répondit Suzanne. Elle soutint vaillamment le regard de sa tante, malgré l'effort qui lui en coûtait.
Les mensonges allaient succéder aux semi-vérités comme la nuit au crépuscule.
« Je les ai rencontrés tous les trois en ville. Vous voilà satisfaite ?»«
Oh que non, point du tout !» constata Suzanne avec un désarroi grandissant.
« Me jurez-vous, Suzanne, sur le nom de votre père, que vous n'avez jamais eu de rendez-vous avec ce Dearborn ?»
Toutes mes chevauchées en fin d'après-midi, songea Suzanne. Toutes les excuses inventées, tout ce soin pris afin que personne ne nous voie, tout cela réduit à néant à cause d'un geste insouciant de la main par un beau matin de pluie. Tout cela si facilement mis en péril. Pensions-nous qu'il pourrait en aller autrement? Avons-nous été bêtes à ce point?
Oui. Et non.
La vérité, c'est qu'ils avaient été fous. Elle était encore. Suzanne n'avait pas oublié le regard de son père les rares fois où il l'avait prise en flagrant délit de menterie. Son regard un peu étrange où se lisait de la déception. Et ce sentiment que ces menteries, si anodines qu'elles aient été, l'avaient blessée comme l'égratignure d'une ronce.
« Je ne jurerai sur rien ni sur personne, » dit-elle. « Vous n'avez point le droit de me le demander. »«
Jure donc !» piailla Cordelia.
Elle chercha à nouveau la table, s'y agrippant comme si son équilibre était menacé.
« Jure-le ! Jure-le ! On ne joue pas à un chat ou au furet ni à Dada sur mon poney ! Tu n'es plus une enfant ! Jure-le-moi ! Jure que tu es encore pure !»«
Non. »
fit Suzanne, tournant les talons. Son cœur battait la breloque, mais une terrible clarté d'esprit lui ouvrait les yeux sur le monde. Roland l'aurait reconnue pour ce qu'elle était. Suzanne avait la vision d'un pistolero. Une fenêtre vitrée dans la cuisine donnait sur l'aplomb, et elle y aperçut le reflet fantomatique de tante Corde se précipiter sur elle, la menaçant du poing. Sans se retourner, Suzanne leva sa main pour lui intimer de faire halte.
« Ne portez pas la main sur moi » dit-elle. « Ne me touchez point, sale garce !»
Elle vit dans le reflet les yeux fantomatiques s'écarquiller de consternation sous le choc. Elle vit aussi le poing réfléchi s'ouvrir et la main retomber le long du flanc de la femme spectrale.
« Suzanne !» fit Cordelia d'une petite voix peinée. « Comment pouvez-vous me traiter aussi grossièrement ? Qu'est-ce qui a pu vous pousser à me retirer votre estime ? »
Suzanne sortit sans lui répondre. Elle traversa la cour et entra dans l'écurie. Là, les odeurs qui lui étaient familières depuis l'enfance, celles des chevaux, du bois, du foin, lui montèrent à la tête et estompèrent cette lucidité terrible. Elle rebascula en enfance, errant à nouveau parmi les ombres de sa confusion. Pylône se retourna vers elle et poussa un hennissement. Et Suzanne, la tête enfouie dans sa crinière, se mit à pleurer. 7.
Et voilà ! S'exclama le shérif Avery après le départ des Sy, Dearborn et Heath.
Juste comme vous l'aviez dit. Ils sont lents, voilà tout. Rien d'autre que des larbins prudents.
Il brandit la liste méticuleusement rédigée, l'étudia un instant, puis éclata d'un rire caquetant et joyeux.
« Et regardez-moi ça, splendide! Ah, wesh! On peut se déménager tout ce qu'on veut point qu'y voit, plusieurs jours à l'avance, si fait !»«
Ce sont de pauvres idiots, » dit Reynolds, qui ne s'en languissait pas moins d'avoir une autre occasion de les affronter. Si Dearborn croyait qu'ils avaient passé l'éponge après la petite affaire du repos des voyageurs, il avait franchi le stade de l'imbécilité et campé sur les terres de la débilité profonde.
L'adjoint Dave ne dit rien. Il examinait d'un œil désolé à travers son monocle le tableau des Castles où son armée blanche avait été anéantie vite fait bien fait en 6 coups. Les forces de Jonas s'étaient déversées autour de la butte rouge et leur flux avait balayé les espoirs de Dave comme un fétu de paille.
Je suis tenté de m'arnacher bien au sec et d'aller à front de mer avec ceci, dit Avery.
Il dévorait toujours des yeux la feuille et sa liste bien propre de fermes, de ranchs et de dates d'inspection prévues. Ça courait jusqu'au terme de l'année et au-delà.
Mais Dieu! Pourquoi vous ne le faites pas?
Dit Jonas en se levant. La douleur lui élança la jambe comme une amertume éclair.
« Une autre partie, ça et Jonas ?» demanda Dave, commençant à redisposer les pièces.
« J'aimerais mieux jouer avec un bouffeur d'herbe, » dit Jonas,
qui prit un malin plaisir à voir la rougeur qui colora le cou et la face candide de cet imbécile. Il traversa la pièce en claudiquant jusqu'à la porte, l'ouvrit et sortit sur le porche. La bruine s'était transformée en une pluie douce, mais partie pour durer. Hill Street était déserte, ses pavés luisants d'humidité. Reynolds l'avait suivi à l'extérieur.
« Eldred,
fous le camp !»
dit Jonas sans se retourner. Clay hésita un instant, puis rentra et referma la porte.
« Eh merde, qu'est-ce qui tourne pas rond chez toi ?»
se demanda Jonas à lui-même. Il aurait dû se réjouir de la liste des deux morveux. Autant qu'Avery, autant que Rimmer le ferait quand il lui aurait parlé de la visite de ce matin. Après tout, n'avait-il pas dit à Rimmer, il n'y avait pas 3 jours de ça que les gamins seraient bientôt sur l'aplomb à compter tous leurs sous? Si fait, alors, pourquoi cette inquiétude? D'où lui venait cette putain de frousse? Parce que Latigo, l'homme de Farson, ne l'avait toujours pas contacté? Parce que Reynolds était revenu bredouille de la roche suspendue un jour? Et de pape idem le suivant?
Sûrement pas.
Latigo viendrait escorté d'une troupe considérable, mais il était encore trop tôt, Jonas le savait. La moisson était encore presque à 1 mois de là. Alors c'est seulement ce temps pourri qui te taquine la jambe, réveille cette vieille blessure et te fout en rogne?
Non.
La douleur était sévère, mais il avait connu pire. Le problème était dans sa tête. Jonas s'appuya à un pilier de l'avant-toit, écoutant la pluie faire plic-ploc sur les tuiles. Il songea comment, parfois, dans une partie de Castles, un bon joueur jetait un œil de l'autre côté de sa butte avant de se replier derrière. Voici ce que ça lui inspirait. C'était trop beau pour ne pas sentir vilain. Idée folle, mais pas si folle à la réflexion.
T'essaierais pas de jouer au Castles avec moi? « Fasse dans le choix !» murmura Jonas. « Si c'est le cas, tu regretteras sous peu de ne pas être resté dans les jupes de ta maman. Si fait !»
8. Roland et Cuthbert retournaient au bar K en longeant l'aplomb. Il n'y aurait aucun décompte de fait aujourd'hui. Au début, malgré la pluie et le ciel gris, Cuthbert avait retrouvé sa bonne humeur, ou quasiment.
« Non mais tu les as vus ?»
demanda-t-il dans un éclat de rire.
« Tu les as vus, Roland ?
Will, je veux dire ?
Ils ont marché, non ? Ils ont avalé ça comme du petit lait, si fait ?»«
Oui. Qu'est-ce qu'on fait ensuite ? C'est quoi notre prochain mouvement ?»
Roland le fixa un instant d'un œil vide, comme s'il venait de le tirer de sa sieste.
C'est à eux de bouger. Nous, on se contente de compter et d'attendre. »
L'enjouement de Cuthbert tomba d'un coup comme soufflé, et ce dernier se retrouva à faire barrage une fois encore à un flot de récriminations, tournant toutes autour de deux thèmes majeurs. Primo, que Roland manquait à ses obligations afin de pouvoir continuer à se goberger en jouissant des charmes d'une certaine jeune personne. Secondo, et plus capital, que Roland avait perdu la raison au moment où l'entre-deux-mondes en avait le plus besoin. Sauf que, à quelle obligation Roland manquait-il? Et, d'autre part, qu'est-ce qu'il rendait si sûr que Roland avait tort? Sa logique? Son intuition? Ou simplement cette bonne vieille jalousie puant la merde comme une casse à chat? Cuthbert se surprit à penser à la facilité avec laquelle Jonas avait éventré les rangs de l'armée de l'adjoint Dave quand ce dernier avait bougé trop tôt. Mais la vie n'était pas une partie de Castles.
Ah non?
Il n'en savait rien. Mais il songea que l'une de ses intuitions au moins était valable. Roland courait à la catastrophe. Et eux tous par la même occasion.
« Réveille-toi, » se dit Cuthbert. « Je t'en prie, Roland, réveille-toi avant qu'il soit trop tard. »